Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Le 13 avril 2029, ce n'est pas encore demain, mais c'est après-demain, les astronomes du monde entier pourront suivre dans le ciel de l'ouest de l'Europe et de l'Afrique du Nord une étoile brillante que l'on regardera sans doute avec un œil curieux. Il s'agit d'Apophis. Apophis, l'astéroïde dont on dit qu'aujourd'hui il pourrait entrer en collision avec la Terre. Patrick Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable du groupe de planétologie dynamique. Quand on regarde cette nouvelle concernant Apophis, on a toujours l'impression, vous le savez bien, c'est la fameuse histoire, le ciel peut-il nous tomber sur la tête, et de temps en temps on sort un astéroïde, celui-ci s'appelle Apophis. Est-ce qu'on peut regarder ça avec un œil amusé ou est-ce vraiment très sérieux?
Bon, je dirais les deux, parce que je pense que la probabilité pour que cet objet rentre en collision avec la Terre reste relativement élevée, mais on pourra en discuter, va probablement s'annuler. En revanche, ça reste quand même un problème sérieux sur le long terme, parce que c'est un risque naturel qui est à haute conséquence, faible probabilité, mais très haute conséquence. C'est-à-dire que le jour où un objet de la taille d'Apophis, qui fait 300 mètres de diamètre, rentre en collision avec la Terre, alors pour un objet de 300 mètres de diamètre, ça produit des dégâts régionaux. Régionaux, ça veut dire que c'est un continent quand même.
Oui,
on ne parle pas d'une région de la France, mais régionaux par rapport à la taille de la Terre. Et il est clair que les impacts, eh bien, il y en a eu, il y en aura encore. La Lune en est le meilleur témoignage. Mais même sur la Terre, on en a. Et des objets qui rentrent en collision avec la Terre, qui sont susceptibles de faire de gros dégâts, comme par exemple un objet de 1 km qui peut, on l'estime, faire disparaître 25% des espèces vivantes, c'est de l'ordre de tous les 500 000 ans. Alors comme notre système solaire a à peu près 4,5 milliards d'années d'existence, il a encore à peu près, il en a la moitié, 4,5 milliards d'années de vie, ça veut dire que d'ici la fin de vie de notre Soleil, on aura affaire à un impact qui produira des gros dégâts, voire même l'extinction d'espèces vivantes, puisqu'un objet de 10 km de diamètre cette fois-ci, c'est à peu près tous les 100 millions d'années. Et 100 millions d'années, encore une fois, par rapport à la durée de vie du Soleil, c'est court. Et 10 quelques mètres de diamètre, là, ça produit des effets très graves.
Alors, c'est déjà arrivé, nous dites-vous, mais c'est vrai qu'il y a une discussion scientifique sur les conséquences d'une collision entre la Terre et un objet, et en particulier, plus l'objet est gros, d'une certaine façon, plus il devrait détruire de choses. Or, nous sommes toujours là, la vie est toujours là, les espèces vivantes fleurissent et se multiplient, même s'il y a eu des accidents dans l'histoire. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance à surévaluer les conséquences d'un impact d'astéroïdes de taille kilométrique?
On a tendance à le surévaluer. Enfin, oui et non, parce que en fait, on le surévalue avec nos principes humains, c'est-à-dire qu'on l'évalue par rapport aux populations humaines. Et du coup, quand on parle d'objets de plusieurs kilomètres, c'est vrai qu'un objet de 10 km de diamètre qui tombe sur Terre, la population humaine disparaît.
En ça gros, c'est à peu près... ça fait quoi? On le sait?
Ça fait plusieurs milliards de bombes d'Hiroshima en termes d'énergie. Ce que ça fait, c'est en fait une explosion telle que la plupart de la poussière due à l'explosion va se mettre en orbite autour de la Terre, va empêcher la lumière du soleil de passer, donc plus de photosynthèse, donc plus de manière de faire grossir des plantes. Et on ne meurt pas nécessairement de l'impact lui-même, enfin, sauf ceux qui sont à côté, c'est clair. Mais disons que ceux qui sont de l'autre côté du globe ne mourront pas immédiatement, mais ils mourront... À la limite, il vaut peut-être mieux mourir tout de suite parce que ça va être très sévère. Donc si, les conséquences... Alors, c'est vrai que si vous me demandez en termes de simulation, est-ce qu'on sait simuler ça? Pas encore vraiment. Par contre, on peut faire des estimations. Et toutes les estimations indiquent que pour des objets de plusieurs kilomètres de diamètre, on serait quand même en mauvais état. Alors par contre, il est clair aussi que on a identifié pendant l'histoire de notre Terre des grandes extinctions. Il y a 200 millions d'années, il y a 65 millions d'années les dinosaures, etc. Bon. À chaque fois d'ailleurs, on peut estimer, on peut relier ça à un impact. Alors je sais bien qu'il y a un débat sur les dinosaures, est-ce que c'est un impact qui a fait disparaître les dinosaures ou non. Le débat est vrai, a lieu. Il y a beaucoup d'indices qui, en tous les cas, il est clair qu'il y a eu un impact. Il y a à peu près 60 et quelques millions d'années. Tout le problème, c'est de savoir exactement quand est-ce que sont morts les dinosaures et quand est-ce qu'a eu lieu l'impact. Et quand est-ce qu'ont lieu ces volcans, justement. Il y a eu ces phénomènes-là.
L'impact a eu lieu.
L'impact a eu lieu, le cratère a été identifié, au Mexique, au Yucatan, cratère du Chicxulub, 180 km de diamètre, cratère enfoui. On a aussi une anomalie d'abondance en iridium. L'iridium, c'est un matériau qu'on ne trouve pas sur Terre, qui est apporté de façon extraterrestre. Et on a un pic d'abondance dans la couche crétacée-tertiaire, qui correspond à peu près à la datation de 65 millions d'années. On a aussi retrouvé des tectites qui sont en fait, les tectites, ce sont en fait des petites gouttelettes qui ont été glacées, qu'on a retrouvées même en Afrique, datées de cette date-là. Et pour expliquer la structure de ces tectites, il faut qu'elles aient subi des gradients de température de manière très rapide et élevée, qui ne peuvent être produits que par des éjections de matière dues à un impact.
C'est une vitrification, en quelque sorte.
Voilà, exactement. On a aussi des quartz choqués, qui montre le degré de choc, c'est qu'il y a eu un impact majeur. Alors après, relier ça exactement aux dinosaures, c'est pas évident.
Oui, parce qu'au même moment, il y avait les trappes du Deccan, ces grandes éruptions volcaniques lentes qui auraient pu changer la composition atmosphérique.
Exactement. C'est pas encore clair. Par contre, il est clair que par rapport à ces événements-là, la population humaine elle-même n'aurait pas résisté. Cela dit, la question, c'est plus une question philosophique. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on peut parler de surestimation du risque ou non ? Surestimation, non, par rapport à la survie de l'espèce humaine. On peut penser que d'ici 100 millions d'années, il y aura un impact qui éliminera les humains s'ils ne sont pas éliminés par eux-mêmes avec leurs bêtises. Mais pas survie de l'espèce vivante. Parce que ce qui est remarquable, c'est que autant on ne sait pas fabriquer la vie à partir de rien en laboratoire, on n'a jamais réussi. En revanche, une fois que la vie existe, elle s'avère extrêmement robuste. Alors, elle se transforme, mais elle est robuste. Et on n'arrive pas à l'éliminer. D'ailleurs, on le voit, plus on a d'antibiotiques et de choses, ou même de médicaments qui permettent d'antiviraux robustes, plus ils deviennent virulents et ils résistent. Et la vie, c'est un peu ça. Donc, si on n'est pas préoccupé par l'avenir de l'humanité en termes d'être humain, et qu'on se dit que ce n'est pas une fin en soi, alors là, on rentre dans des débats religieux, philosophiques, etc., eh bien, à ce moment-là, on peut dire que les impacts, ça fait partie de l'histoire du système solaire. Et donc, peut-être qu'on en mourra, mais la vie continuera.
Alors, Patrick Michel, ces impacts, ils peuvent être majeurs, comme vous le disiez, avec des objets qui ont une taille de quelques dizaines de kilomètres, mais ils peuvent être aussi moyens et mineurs, c'est-à-dire avec des objets qui sont beaucoup plus petits et qui rentrent plus souvent en collision avec la Terre puisqu'ils sont plus nombreux. Et là, pour le compte, nous en avons dans la période historique.
Ah oui, alors, de toute façon, déjà, chaque jour, il y a une dizaine de milliers de tonnes de matériaux qui viennent sur Terre. Alors, évidemment, la plupart est filtrée par l'atmosphère, la plupart tombent dans l'eau aussi. Il se trouve que même au niveau de témoignages d'impact, c'est pas évident parce que nos populations sont concentrées vers les côtes, et j'en sais quelque chose, vivant sur la Côte d'Azur. Et donc, on a beaucoup d'eau et beaucoup de déserts. Et la probabilité pour que ça arrive sur des zones habitées reste faible. Cela dit, on a quand même des événements qui ont été dont on a les témoignages, comme par exemple en Sibérie en 1908, une explosion à 8 km d'altitude d'un objet et qui a pulvérisé 2000 km² de forêt dans la Tunguska. Il y a eu des témoignages de ça, notamment le son. On a aussi les forêts dévastées, il y a des expéditions qui y vont chaque année, des enregistrements sismiques aussi bien aux États-Unis que partout sur le globe de cet événement. D'ailleurs, il faut remarquer, il n'y a pas eu d'impact, il y a eu une explosion, et pourtant on a eu des enregistrements sismiques. C'est là qu'on voit quand même les conséquences. Et donc ça, on a les témoignages. Alors, on sait aussi que les fréquences d'impact de corps d'une centaine de mètres de diamètre, c'est à peu près tous les 1000 ans. Donc on a bien, tandis que les êtres humains étaient là, eu des impacts de ce genre, sauf qu'ils ne font pas, des dégâts suffisamment importants pour qu'ils aient pu être référencés.
Météor cratère en Arizona, c'est un objet qui fait 20 mètres de diamètre, c'est pas beaucoup,
exactement, une vingtaine ou une trentaine de mètres de diamètre, ce qui fait plusieurs centaines de bombes d'Hiroshima. En général, la taille du diamètre est à peu près une dizaine de fois la taille du projectile. Sauf que là, par exemple, pour Météor cratère, c'était plus gros encore, c'était 1,2 km de diamètre.
Ça, deux tiers d'océan, ça veut dire qu'on peut avoir des tsunamis sur les bords de côte sans qu'on ait un objet bien repéré au sens du cratère d'impact.
Absolument. Mais là, pour le coup, on parlait de surestimation du risque. Je dirais que pour les tsunamis, je pense que le risque est surestimé. parce que quand on parle d'un objet justement comme Apophis 300 mètres de diamètre qui s'y rentre en impact avec la Terre, ça sera sur l'océan Pacifique probablement, ça provoquerait un raz-de-marée qui ferait que il y a la moitié des États-Unis qui serait nécessaire d'évacuer, Californie, etc. Et là je pense que c'est surévalué parce que dans les calculs qui sont faits de tsunami, on ne prend pas en compte le fait qu'on a dans la mer des régions dans lesquelles la profondeur devient subitement moins élevée. Et ça peut, et justement c'est le cas sur la côte ouest des États-Unis, on a, malheureusement j'ai plus le nom en tête, comment on appelle ça, mais une augmentation du niveau du sol par rapport, enfin une diminution de la profondeur de la mer, qui fait que l'onde produite par le choc serait amortie. Les vagues, disons, auront leur ampleur diminuée du fait de l'impact avec ce mur, entre guillemets, dans l'océan. Donc je pense que l'estimation des tsunamis dus à des impacts de type astéroïdaux est encore très mal contrainte et très mal connue, et il est probable qu'on l'ait surestimée. Ça, c'est possible.
Alors, par contre, là où les études ont énormément progressé, c'est sur l'origine de ces objets, sur ces objets qui peuvent rentrer en collision avec la Terre. Est-ce qu'ils font partie d'une famille particulière? Sait-on d'où ils viennent? De quoi ils sont composés? Sont-ils tous les mêmes?
Alors, ils font partie d'une catégorie d'objets qu'on appelle donc les croiseurs des planètes, pour les distinguer des objets qui sont entre Mars et Jupiter, qu'on appelle les astéroïdes, de la ceinture des astéroïdes. Donc c'est une catégorie d'objets. Alors ce que l'on sait, c'est qu'ils sont liés génétiquement à la ceinture des astéroïdes. Il y avait deux indices qui nous donnaient ça, c'est que le plus gros astéroïde de la ceinture principale fait 1000 km de diamètre, s'appelle Cérès, et le plus gros astéroïde croiseur des planètes fait une dizaine de kilomètres de diamètre. Donc déjà on se disait, tiens c'est bizarre, on a beaucoup de plus gros corps dans la ceinture des astéroïdes, et ceux-là sont plus petits. En plus, on a pu observer par les radars, les missions spatiales, qu'ils ont des formes très irrégulières. Des formes. Donc, on disait, tiens, c'est peut-être des fragments, en fait, des corps qui ont été cassés. La troisième chose, c'est que les spectres que l'on fait, donc les observations spectrales, nous montraient que leur composition est à peu près similaire à celle qu'on trouve dans la ceinture des astéroïdes. Donc, on disait, voilà, encore un lien génétique probable. Quatrième indice, c'est qu'une partie de leur trajectoire réside quand même dans la ceinture. Ils ont leur distance minimale au Soleil est à l'intérieur de l'orbite terrestre, donc ils la croisent, mais leur distance maximale reste dans la ceinture. Donc c'est encore lié quelque part dans la ceinture. Et on a pu montrer effectivement que, donc par la théorie et par des simulations, que ces objets-là sont en fait des objets qui viennent de la ceinture des astéroïdes. Le scénario est le suivant, on a des collisions dans la ceinture qui génèrent des fragments. Ces fragments sont envoyés sur des trajectoires instables. Ces trajectoires instables les font passer d'une orbite, d'une trajectoire quasiment circulaire autour du Soleil dans la ceinture, à une trajectoire très allongée, qui fait que leur distance minimale au Soleil va diminuer, ils vont pouvoir croiser la Terre. Donc on a une collision qui produit des fragments, et ces fragments sont envoyés en route vers la Terre.
Et ils finissent toujours par tomber ?
Alors non, heureusement pour nous, seule une minorité tombe sur Terre. La plupart rentrent en collision avec le Soleil ou est éjectée au-delà de Jupiter par une rencontre avec Jupiter à leur distance maximale. Et certains donc rentrent en collision avec la Terre, avec Mars, la Lune, Vénus, Mercure éventuellement. Et donc on a donc une minorité. En revanche, ce que l'on sait, et c'est pour ça qu'on peut estimer des fréquences d'impact, c'est que leur nombre reste constant au cours du temps. Pourtant, leur durée de vie est limitée, puisqu'on vient de le dire. Ils rentrent en collision avec la Terre, ils rentrent en collision avec le Soleil. Le temps de vie moyen d'un objet, une fois qu'il est croiseur de la Terre, c'est de l'ordre de 10 millions d'années. Alors que le système solaire a 4 milliards et demi d'années d'existence. Alors il y a un paradoxe, on dit en même temps, mais oui, on a une population en nombre constant, mais pourtant, ces objets meurent. Donc il y a bien un mécanisme qui repeuple. Le taux de natalité doit compenser le taux de mortalité. Et en fait, effectivement, c'est le fait que pendant que ces objets évoluent, eh bien, dans la ceinture des astéroïdes, il y a des collisions qui se produisent, qui génèrent de nouveaux fragments, qui vont les envoyer vers la Terre. Et donc, pendant que ces objets meurent, eh bien, d'autres arrivent de la ceinture des astéroïdes.
Donc, on sait combien d'objets potentiellement menacent la Terre. Combien sont-ils ?
Alors, on estime qu'il y a à peu près, ça dépend de leur taille, donc plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. On estime qu'il y a 1000 objets de diamètre supérieur à 1 km qui croisent la trajectoire de la Terre. donc 1000 objets, et 1 km c'est le seuil pour faire disparaître 25% de la population. On en a recensé 500, un peu plus de la moitié maintenant, ça a augmenté, peut-être 700. Donc ça veut dire qu'il y a encore 300 qu'on ne connaît pas, ce qui est quand même un problème. Et quand on descend dans des tailles de l'ordre de quelques centaines de mètres, 300 mètres, on a peut-être 10 000 corps. Donc on passe de 1000 à 10 000 le nombre augmente avec la diminution de la taille. Plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. On a deux problèmes face à ça. C'est que d'une part, on n'a pas recensé la totalité de ces objets. Donc on n'a pas fait l'inventaire. Donc pour ceux qu'on connaît, on peut estimer le risque. Pour ceux qu'on ne connaît pas, ben, par définition, le risque n'est pas estimable. Et d'autre part, pour ceux que l'on connaît, le risque, on ne peut l'estimer que sur un court terme. On est capable de calculer l'évolution d'un objet qui croise les planètes avec une quasi-certitude sur à peu près 20 ans. Pas plus. Et ça, c'est pour les mêmes raisons, on peut dire que le calcul du temps qu'il va faire dans 5 jours en météorologie, c'est le fait que quand vous faites un calcul de la trajectoire d'un objet au cours du temps, vous partez donc d'un instant donné, pour lequel vous avez sa trajectoire initiale, qui vous est donnée par les observations. Mais évidemment, les observations ne sont pas précises à l'infini, donc vous faites une petite erreur. Et quand vous partez donc de la trajectoire donnée par les observations, et que vous faites un calcul, bon, vous refaites le calcul avec une trajectoire qui est toujours à l'intérieur des barres d'erreur de l'observation, mais différente de la trajectoire avec laquelle vous avez fait le premier calcul. Et vous apercevez que si vous faites donc ces deux calculs-là, eh bien, ils vont vous donner à peu près le même résultat jusqu'à à peu près 20 ans. Et au-delà des 20 ans, les deux résultats vont être totalement différents. Ils vont diverger exponentiellement, comme on le dit. Et c'est la même chose en météorologie. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est précis à 5 jours? C'est parce que si à l'intérieur des barres d'erreur de vos instruments de mesure, vous prenez des valeurs données et vous faites le calcul d'évolution du temps, vous allez trouver à peu près le même temps pour les 5 prochains jours. Et au-delà des 5 jours, vous ne savez plus.
Ça veut dire qu'Apophis, frôlant la Terre en 2029, on est dans cette barre d'erreur-là, plus de 20 ans, et aujourd'hui, on va devoir continuer à surveiller le comportement de cet astéroïde pour connaître exactement sa position le 13 avril 2029.
Alors, Apophis est effectivement un très bon exemple, c'est un cas d'école idéal, puisque justement, c'est là à quel point on s'aperçoit qu'il est important de pouvoir affiner les prédictions sur des temps plus longs. Et à quel point aussi il est important pour cela, parce que mathématiquement on reste un peu bloqué, c'est la caractéristique des systèmes dynamiques chaotiques, c'est qu'on n'a pas de moyen en fait de résoudre ce problème dû au chaos, à la sensibilité aux conditions initiales. Seul moyen, c'est de suivre ces objets pour justement avoir des nouvelles conditions initiales plus loin dans le temps. C'est-à-dire si j'ai actuellement la trajectoire d'Apophis. Bon, en 2012 et 2013, il va y avoir des observations radar qui vont nous permettre, plutôt que de repartir de maintenant pour faire le calcul, de partir de 2012-2013. Et donc, on peut aller un peu plus loin dans le temps, parce que, avec certitude.
Comment ça se passe aujourd'hui? On découvre par hasard, il y a des réseaux de surveillance qui regardent le ciel et qui regardent tout ce qui bouge en essayant de savoir si on le connaît, et on établit ensuite des calculs de trajectoire.
Alors, il n'y a pas de coordination, c'est pas très coordonné tout ça. Pour l'instant, il y a des télescopes, dont l'un qui est aux États-Unis, qui s'appelle LINEAR, qui appartient au MIT, et qui est celui qui a identifié le plus de corps ces dernières années, puisqu'il a en 5 ans fait ce qu'on n'avait pas fait en 30 ans.
Il scanne le ciel, quoi.
Il scanne le ciel, c'est un télescope qui appartenait à l'armée. L'ironie, c'est qu'au départ, l'armée l'utilisait pour observer les satellites espions, et il fallait qu'ils éliminent tout ce qui bougeait trop vite, donc les astéroïdes, allez, on les élimine. Et puis il a été vendu donc au MIT, et maintenant ils font l'inverse. Ils éliminent tout pour garder que les astéroïdes. Et c'est vrai qu'ils ont fait ils ont permis une avancée majeure dans le recensement des objets. Mais le problème, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert un objet, ça ne sert à rien de l'avoir découvert si on ne le suit pas, puisque pour pouvoir définir une trajectoire, il faut un nombre de points sur la trajectoire suffisant pour, en gros, pour avoir une trajectoire, il faut une position et une vitesse. À partir de ça, on définit une orbite. Et pour ça, il faut au moins 3 observations consécutives qui nous permettent d'avoir 3 points pour faire la définition. Mais encore une fois, tout ça, si on peut suivre l'objet dans le temps, on pourra affiner. Et c'est ce qui se passe en général, c'est que bien souvent, la première observation d'un objet, parmi toutes les évolutions possibles futures, du fait que l'observation a des énormes barres d'erreur dans sa mesure, si on prend des trajectoires initiales qui sont à l'intérieur de ces barres d'erreur, on trouve très souvent une solution qui mène à une collision avec la Terre. D'où les alarmes, les fausses alertes qu'on a eues ces dernières années, qui n'étaient pas dues à la stupidité des scientifiques, qui étaient simplement dues au fait que on fait des calculs dès qu'on a une observation et qu'on trouve toujours au départ, parce qu'il y a pas une infinité de solutions, mais énormément de solutions qui font qu'on va trouver une orbite qui rentre en collision avec la Terre.
La probabilité n'était pas nulle.
La probabilité n'était pas nulle. Et au bout du compte, si on arrive à affiner, à être plus précis sur la trajectoire initiale, on élimine des possibles sur le résultat final, puisqu'on élimine des trajectoires par rapport aux conditions initiales. Et bien souvent, les trajectoires qu'on élimine sont les collisions, heureusement, jusqu'à un moment donné.
Alors, avant de parler de la façon de se protéger et quelles sont les solutions qu'on pourrait adopter si un objet menaçait la Terre, pour terminer sur le repérage, la localisation de ces croiseurs, géocroiseurs comme on les appelle, ça veut dire qu'il reste encore à peu près 30% des objets dangereux pour plus d'un kilomètre à trouver. Ça veut dire encore combien d'années de recherche avant d'être sûr à 100% qu'on les connaît tous?
Tout dépend en fait des prochains programmes d'observation et de leur financement. En fait, actuellement, il y a un observatoire, un télescope qui s'appelle Pan-STARR, qui de l'université d'Hawaï, qui est en phase de financement, mais il a été financé pour un télescope alors qu'il doit en avoir quatre. Si Pan-STARR est mis en œuvre et a effectivement les capacités qu'il prétend, d'ici 10 ans, 15 ans, on aura fait l'inventaire des objets probablement jusqu'à même 300 mètres de diamètre. On a fait une petite simulation des capacités de ce télescope, des observations faites par ce télescope. Et c'est fabuleux.
Mais ça veut dire qu'il y a des politiques qui ne prennent pas ça au sérieux? Parce que...
Vous savez, non seulement des politiques, mais même des scientifiques. Le problème du risque d'impact avec la Terre est un problème qui est un sujet à débat, y compris dans la communauté, y compris au sein de mes collègues. Certains disent oh, on ne devrait pas pousser là-dessus, le risque est mineur. D'autres disent non, attends, c'est un risque faible mais à haute conséquence. Et donc, c'est dur à faire passer, y compris au niveau des scientifiques. Par exemple, ce télescope Pan-STARR, le jour où il existe, les programmes d'observation, on aura comme concurrence les astrophysiciens, les cosmologues, parce qu'il peut tout faire. Et il faudra se battre pour que les objets croiseurs de la Terre puissent être identifiés avec ça.
On vous accuse de crier au loup?
Un petit peu, ouais, absolument. En fait, on nous accuse de crier au loup. Puis surtout, c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, quand on étudie ces objets-là, moi, je vais vous dire très franchement, je suis en faveur d'étudier ce problème de risque, pour deux raisons. La première, c'est que, d'abord, c'est un risque réel. Certes, si vous voulez savoir si je me couche le soir tranquillement, je suis bien plus inquiet par des milliers d'autres choses que par ce risque-là. Mais on sait que ça arrivera un jour, et on investit sur l'avenir. C'est comme le réchauffement climatique. Ce qu'on fait maintenant, c'est pas... Nous, on est à peu près... peut-être qu'on vivra un peu moins bien dans 30 ans, mais ça sera pire dans 100 ans. Et donc, si on fait tous les sacrifices qu'on est prêt à faire, c'est pour les générations futures. Et ce risque d'impact, pour les générations futures, il se produira. D'autre part, c'est probablement, si on y met les budgets, et somme toute, c'est pas des budgets énormes par rapport à énormément de budgets. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros pour des missions spatiales. Le trou du Crédit Lyonnais, c'était 700 millions d'euros. Donc c'est le risque, si on y met ces budgets là, qui peut être prédit et évité, contrairement au risque sismique, au volcan, etc. C'est un risque vraiment, si on y met les moyens, on peut le prédire, parce qu'on peut faire l'inventaire de ces objets, soit depuis le sol, comme je vous l'ai dit avec Pan-STARR, ou depuis l'espace encore plus rapidement. Et ensuite, on peut mettre au point des techniques, faire des missions spatiales pour essayer de comprendre comment éviter ce risque. Et on trouvera. Donc c'est vraiment, ça serait dommage de se limiter, de s'auto-censurer par rapport à ça. Et surtout, ce qui est très, en tant que scientifique, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en étudiant ce risque, on apprend aussi scientifiquement. Puisqu'on va aller faire des observations de ces objets, on va étudier leur réponse à un impact, et ça, c'est de la science. Ça, on aura une réponse scientifique.
Alors, comment l'éviter? Comment s'en protéger? Quelles sont les solutions? Eh bien, c'est l'objet du second podcast.